Le supplice.
L'aube fut lente à venir pour ceux qui avaient traversé la nuit sans repos, sans espérance et sans oubli. Couchés côte à côte sur une brassée de paille, dans une cellule de la prévôté de Pontoise, les frères Daunet attendaient la mort. Sur l'ordre du garde des Sceaux, ils avaient été soignés, ainsi leurs plaies ne saignaient plus, leur cœur battait mieux, et dans leur chair écrasée, il était revenu un peu de force, afin qu'ils puissent mieux éprouver les supplices auxquels ils étaient promis. À Maubuisson, ni les princesses condamnées, ni leurs époux, ni Mao, ni le roi lui-même n'avaient pu trouver le sommeil. Et Isabelle non plus n'avait dormi, obsédée par les paroles de Marguerite. En revanche, Robert d'Artois, après ses 20 grandes lieues de chevauchée, s'était écroulé, sans même ôter ses bottes sur la première couche venue, dans le logis d'accueil. Lormet, un peu avant prime, dut le secouer pour qu'il ne manquât pas le plaisir d'assister au départ de ses victimes. Dans la cour de l'abbaye, trois grands chariots bâchés de noir venaient de se ranger, et messire Alain de Pareil faisait aligner sous la clarté rose du petit matin les 60 cavaliers en gambison de cuir, cottes de mailles et chapeaux de fer qui formeraient l'escorte du convoi vers Dourdan d'abord, puis la Normandie. Derrière l'une des fenêtres du château, la comtesse Mao regardait le front appuyé au vitrail et ses larges épaules secouées de soubresauts. « Pleurez-vous, madame ?» demanda Béatrice d'Hirson, de sa voix traînante. « Cela peut m'arriver aussi, » répondit rudement Mao. Puis, comme Béatrice était déjà tout habillée, robe, coiffe et chape, elle ajouta « Sors-tu donc ?»«
Oui, madame, je vais voir le supplice, si vous le permettez. »
La place du Martrois à Pontoise, où allait avoir lieu l'exécution des frères Daunet, était emplie par la foule lorsque Béatrice y arriva. Bourgeois, paysans et soldats y affluaient depuis l'aube. Les propriétaires des maisons qui donnaient sur la place avaient loué à bon prix leurs fenêtres de façade, où les têtes se pressaient sur plusieurs rangs. Les crieurs publics la veille avaient publié le jugement aux quatre coins de la ville. Roués, écorchés vifs, châtrés, décapités. Le fait que les condamnés fussent jeunes, qu'ils fussent nobles et riches, et surtout que leur crime fût un grand scandale d'amour éclaté dans la famille royale, excitait les curiosités et les imaginations. L'échafaud avait été monté dans la nuit. Il s'élevait à une toise du sol et supportait deux roues placées horizontalement, ainsi qu'un billot de chêne. En arrière se dressait le gibet. Deux bourreaux, ceux-là même qui avaient infligé la question aux Daunet, mais à présent vêtus de bonnets et de surcots rouges, escaladèrent la petite échelle qui menait à la plateforme. Deux aides les suivaient, chargés des coffres noirs qui contenaient leurs outils. L'un des bourreaux fit tourner les roues qui grincèrent. Alors la foule se mit à rire, comme devant un tour de battleur. On lança des plaisanteries, on se cogna du coude, on fit circuler de bras en bras une cruche de vin qu'on tendit aux bourreaux, ils y burent, et la foule applaudit.